Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote ! Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Jeudi 25 avril 1974, la nuit tombe sur Lisbonne au moment où cette chanson, La Grandola Villa Morena, retentit sur les ondes de la radio Renascença. Pardon pour mon accent, elle est un signal, elle vient déclencher la révolution des œillets qui mettent fin à la plus vieille dictature d'Europe 50 ans après. L'heure est aux commémorations, les débats historiographiques, mémoriels n'ont pas épargné le Portugal et cette révolution, pourtant pacifique, n'est pas tout à fait consensuelle. Bonjour Yves Léonard.
Bonjour.
Vous êtes historien, enseignant à Sciences Po, membre du Centre d'Histoire de Sciences Po. Alors il faut tout d'abord nous présenter ce dictateur, Antonio de Oliveira Salazar, qui est déjà mort depuis 4 ans, le 25 avril 1974. Qui était cet homme? Quel type de dictature avait-il institué au Portugal?
C'est une dictature assez atypique par certains côtés, parce que c'est un homme qui est un universitaire, c'est un professeur d'université, qui n'a jamais porté l'uniforme, qui n'est donc pas un militaire, et qui va être porté au pouvoir par les militaires qui, eux, ont fait un coup d'État en 1926. Et il devient donc ministre des Finances, parce qu'il a cette compétence, puis président du Conseil, et il met en place une dictature qui s'appelle la dictature de l'État Nouveau, l'Estado Novo, qui est une dictature implacable, privative des libertés publiques, avec une censure très présente, une police politique omniprésente. Et au fil du temps, eh bien, il devient une personnalité incontournable, non seulement de la vie politique portugaise, mais aussi sur le plan international, parce qu'il survit à la Seconde Guerre mondiale, et il va épouser, évidemment, la cause de l'anticommunisme viscéral qui est la sienne, pour devenir, avec le Portugal, un membre fondateur de l'Alliance Atlantique, ce qui va sauver le régime dans le contexte de la guerre froide. Par contre, il va se révéler incapable dans les années 60 de procéder à une décolonisation, d'envisager une sortie négociée politique de cet empire colonial qu'il n'a cessé de sacraliser et qu'il considère comme indispensable à la survie du Portugal. Et c'est ce qui va en grande partie déclencher la révolution des œillets, ce coup d'État du 25 avril 1974.
Alors justement, comment le qualifier donc ce coup d'État 4 ans donc après la mort de Salazar?
C'est un coup d'État très, très singulier parce qu'il est porté par des officiers, mais intermédiaires, ce ne sont pas les généraux qui vont décider tout ça. Ce sont des gens donc qui ont combattu au front dans les guerres coloniales, qui ont été au contact des soldats, des compagnies au terrain, et qui se sont rendus compte que la situation, elle n'est pas tenable militairement. Et qu'en plus, ce pour quoi ils se battent est totalement anachronique, complètement décalé par rapport à l'époque, avec une fiction d'un Portugal pluricontinental du Minho à Timor. Ils se rendent compte que sur le terrain, ça ne tient pas. Donc comme ils observent que le régime est incapable, après la mort de Salazar, et évidemment du vivant de Salazar, mais après sa mort, de réformer les choses, d'évoluer vers une situation, une solution négociée, ils vont avoir l'idée de se débarrasser de ce régime. Ils ont eu le temps. À nous d'agir maintenant. Il faut trouver une solution. Cette solution, elle ne va être que politique et elle passe par le renversement du régime. Et donc, ils s'organisent pour préparer minutieusement, un coup d'État au petit matin du jeudi 25 avril 1974, qui va devenir très vite un mouvement très populaire avec un soutien du peuple dès le matin. Et malgré un certain nombre de dangers, ils vont parvenir dans la journée, assez rapidement, ça se déroule en moins de 24 heures, au soir du 25 avril, le gouvernement dictatorial a remis sa démission et une junte de salut national arrive devant les écrans de télévision et à la radio pour dire « voilà, nous avons renversé le régime, nous allons maintenant mettre en place une démocratie ». Et terminer avec ces lois d'exception, la police politique, la censure et tout ça. Mais l'aventure commence.
Si on compare le Portugal avec ce qui s'est passé en Espagne, parce qu'il y a une concordance des temps à cet égard, que peut-on dire sur les deux processus, d'abord démocratiques et peut-être aussi sur les vestiges de la dictature, Yves Léonard?
Alors sur les processus démocratiques, ce sont deux processus presque opposés, on va dire, au moins dans l'esprit. C'est-à-dire que l'un, la révolution des œillets, est une transition par rupture qui se fait en une journée sur un coup d'État, avec qui sépare très clairement un avant d'un après, avec le chef du gouvernement qui est envoyé en exil au Brésil, un certain nombre de responsables du régime qui sont jugés, condamnés, exilés. Dans le cas de la transition espagnole, c'est bien différent. Elle a été négociée, pactée, comme on a dit, après la mort de Franco. Et elle se déroule selon un calendrier, évidemment, qui n'est pas du tout le même. Même si, en ligne d'horizon, c'est finalement une solution comparable qui aboutit. C'est-à-dire, dans un cas comme dans l'autre, une démocratie libérale à l'européenne qui est privilégiée. Mais vraiment, les fondements sont très différents. Et d'ailleurs, la transition espagnole a regardé, évidemment, cet exemple portugais pour dire, du moins les élites et les responsables politiques, surtout, ne pas faire comme au Portugal, parce que c'est une transition par rupture et qui ouvre le spectre politique, qui ouvre le champ des possibles. Et évidemment, dans ce cas de figure, tout est envisageable. Ça s'est finalement terminé au Portugal comme on sait, c'est-à-dire par une démocratie libérale, mais les autres solutions étaient sur la table et elles auraient pu aboutir à autre chose.
Et oui, parce que ça n'était pas une révolution nécessairement pour aboutir à la démocratie, c'est ça en fait qui était redouté.
La démocratie, oui, mais quel type de démocratie? Avec une dimension sociale très forte, hein, c'est-à-dire une digue rompue, c'est vraiment beaucoup d'attentes qui se sont manifestées à ce moment-là, avec des attentes sociales, des expérimentations dans tous les sens, des occupations d'usines, des terres, etc. Ça a été un laboratoire d'expérimentation politique, la révolution des œillets, qui a d'ailleurs attiré à Lisbonne et au Portugal de très très nombreux hommes politiques et intellectuels de toute l'Europe, de France notamment, et ça a servi effectivement de modèle de réflexion, plus souvent pour dire voilà ce qu'il ne faudrait pas faire.
On a la sensation, malgré tout, qu'il y avait des causes communes. Alors, les révolutions, une multitude de causes, elles donnent du grain à moudre aux historiens, aux sociologues, aux politistes, mais à la fois pour l'Espagne comme pour le Portugal, la dictature avait geler les processus de modernisation, Yves Léonard.
Oui, dans le cas de la dictature portugaise, c'était une volonté très claire du régime salazariste, de Salazar en particulier, de geler un peu le tout développement du pays, c'est-à-dire de maintenir le pays dans une espèce de rapport au passé sacralisé, d'ordre immuable des choses. Tout devait être consacré à ce respect, à l'obéissance. Et donc le développement économique avait été contingenté, dirigé plus vers l'outre-mer très longtemps, vers les colonies, et avec cette volonté d'éviter le plus longtemps possible qu'il y ait une urbanisation, que des classes ouvrières se structurent, qu'une classe moyenne émerge et que l'éducation se développe. Et donc c'est cette société figée, très archaïque, très patriarcale, à laquelle et finalement les capitaines d'avril et ceux qui vont faire la révolution des œillets vont mettre fin.
50 ans donc de révolution des œillets, comment celle-ci va être commémorée aujourd'hui au Portugal?
Alors, elle va être commémorée, d'abord c'est une grande liesse populaire en général, et cette année n'échappera pas à cette règle, parce que c'est quelque chose qui parle beaucoup au cœur des Portugais. Le 25 avril, les œillets, Grendula, la chanson des œillets, bref tout ça devrait susciter des défilés populaires importants dans l'après-midi. Et ça a commencé hier soir, il y a eu des grands rassemblements à Lisbonne, impressionnants, à la caserne du Carme, où les gens chantaient à l'unisson Grendula, la chanson des œillets. Ils étaient rassemblés au Terreiro do Paço, la place du commerce, là où le capitaine Maia et les autres ont pris le contrôle des ministères au petit matin. Donc ça, cette dimension, je crois qu'elle va être même revendiquée, parce qu'il y a aussi un contexte politique particulier au Portugal, avec les élections législatives qui ont eu lieu le 10 mars dernier et qui se sont traduites par l'arrivée à l'élection de 50 députés d'un parti, Chega, d'extrême droite, qui ne fait pas mystère de son hostilité au 25 avril et au processus révolutionnaire. Et donc, évidemment, cette commémoration du 50e anniversaire, elle se déroule dans un contexte qui n'était pas celui qu'on avait imaginé il y a encore 6 mois, où une sorte d'œcuménisme, de rassemblement, au moins sur l'idée que c'est le jour de la liberté, c'est célébré comme le jour de la liberté. Après, il y a des divergences, certains se pincent plus ou moins le nez, mais globalement, le 25 avril, c'est la pierre angulaire de la démocratie portugaise. Sauf que là, on a un parti d'extrême droite qui dit, ça a provoqué beaucoup de problèmes et il faut oublier le 25 avril, oublier la Constitution de 1976.
Et là aussi, j'ai toujours des difficultés pour comprendre comment on peut regretter ce type de dictature qui était une sorte de régime complètement archaïque, qui était à la fois sanguinaire et un peu grotesque. Qu'est-ce qu'il y a à regretter là-dedans ?
Alors, c'est difficile à apprécier comme cette dimension nostalgique. Il y a des emprunts. Il y a des emprunts à la dictature salazariste, avec notamment le thème un peu du récit national, qui est souvent instrumentalisé, c'est-à-dire la grandeur passée du Portugal, avec ses colonies, son outre-mer, toutes ces choses-là, qui résonnent encore à certaines oreilles. Et en gros, c'est un slogan quasi trumpien que cette extrême droite mobilise, « Make Portugal great again », on va dire. Mais, par ailleurs, c'est cet électorat de Chega, qui a voté donc pour ce parti, c'est un électorat jeune, majoritairement jeune. Les jeunes sont allés voter, cette fois-ci, plus que d'habitude, et ont voté plutôt pour Chega. Donc, il y a une vraie interrogation sur cette méconnaissance, finalement, de ce qu'a été la dictature, de ce qu'a été le passé salazariste. Donc c'est très ambivalent, et d'ailleurs, le leader, le responsable de cette formation politique, joue avec prudence, on va dire, de la référence au passé salazariste, empruntant quelques idées, la grandeur, comme je l'ai dit, une forme d'identitarisme, de pureté, de tas de choses, et puis par ailleurs en disant, il faut prendre le train de la modernité. Or, Salazar avait loupé le train de la modernité.
Yves Léonard, historien, on vous doit deux ouvrages qui font référence. Une biographie, Salazar, le dictateur énigmatique, aux éditions Perrin, et Sous les œillets, la révolution, le 25 avril 1974 au Portugal. C'est un livre paru aux éditions Chandaigne. Dans quelques secondes, Alexandra Delbault.